Jérôme de Gramont, vous êtes entre autres phénoménologue, mais surtout philosophe. Comment est-ce qu'on en arrive à être philosophe et aussi phénoménologue ?
On ne naît pas philosophe, on le devient peut-être. Et plus on grandit, plus on cherche à le devenir, c'est-à-dire plus on se rend compte de la difficulté de la chose.
Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont permis justement cette croissance ?
Je n'ai pas commencé par lire de la philosophie, bien sûr. La philosophie, elle est venue après de grandes lectures littéraires. Elle est venue après des lectures de bandes dessinées, tout simplement. On commence par avoir ses expériences d'enfant. Et on lit des romans, on lit beaucoup de romans, on cherche à comprendre. Et puis, un jour, très jeune, je rentrais en sixième, j'ai découvert Pascal. Ça a été un choc. Pascal, c'est à la fois un des plus grands auteurs de la langue française. C'est un immense philosophe. Et c'est en même temps quelqu'un qui a un horizon théologique. C'est le nœud des trois. Et j'ai l'impression que le nœud des trois, j'y suis toujours.
Quand vous êtes tombé dans l'œuvre de Pascal, est-ce qu'il y a eu des étoiles plus particulières qui ont brillé et qui vous ont comme attiré ou fasciné ?
Ah, la manière qu'on a de lire un texte aussi étonnant que les pensées, c'est de les relire en y mettant son ordre, en notant, tiens, la pensée numéro tant, numéro tant, numéro tant. Et puis après, on relit d'affilée les 10 numéros qu'on a choisis cette fois-là. Et ça n'est pas le même trajet que les 10 numéros qu'on choisira l'année suivante. Et donc, c'est l'apprentissage d'une répétition, d'un recommencement, d'un renouvellement. On repasse sans cesse par les mêmes thèmes, par les mêmes idées, par les mêmes textes, et on retrouve des choses toujours nouvelles.
Vous avez été professeur en terminale pendant longtemps, professeur de philosophie.
J'ai été pendant 20 ans professeur au lycée d'Alençon. J'en garde un souvenir extraordinaire. Ce qui est important en terminale et ce qui est important ensuite, c'est qu'on invente les premiers concepts. Pour moi, le synonyme de philosophie, c'est philosophie première. Or, le terme de philosophie première, il est très ambigu. C'est une bonne équivoque. C'est inventé par Aristote pour dire la théologie. C'est-à-dire le premier concept, le concept le plus haut, celui qui décide de tout. C'est-à-dire tout dépend de Dieu. Le cosmos tout entier dépend de Dieu. Et le terme de philosophie première, il est repris au XXe siècle par Husserl, donc par un phénoménologue, on va y arriver, pour dire les premières pensées, les premiers mots, les commencements. Comment nous, hommes, nous commençons. Et en fait, j'ai l'impression que le travail qui est le mien, le travail qui est le nôtre de philosophe, c'est toujours d'aller d'un sens du commencement à l'autre. De trouver ce trajet-là, à partir de l'expérience qui est la nôtre, à partir des premières lectures, à partir des premières rencontres, à partir des premières perceptions, comment on cherche à comprendre et comment on accède peut-être à quelque chose qui est le sens, qui est Dieu. Et quand on est en terminale, on est obligé de poser les premières pierres. J'aimerais que des cours de faculté, que des cours d'université soient pareils. C'est-à-dire, ne soient jamais simplement des questions de mauvaise scolastique, des questions d'érudition, mais que ce soit des questions qui aillent à l'essentiel pour montrer comment on recommence à chaque fois.
Parmi les questions justement des terminales, comment est-ce que vous êtes arrivé à faire accoucher ces premiers concepts à vos terminales ?
À mes terminales, je pense que je les décevais au départ. Je leur disais des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas du tout. Ils arrivaient, mon premier cours, le 1er septembre, et je marquais au tableau un fragment d'Héraclite. Alors, ils arrivaient en se disant « on va me parler du sens de ma vie ». Et moi, je leur commençais en leur faisant faire un grand détour par les Grecs et par la métaphysique. Et puis, je pense qu'au bout de 2 ou 3 mois, parfois c'était au début du mois de juin, ils comprenaient pourquoi ce détour-là. Et il y avait ce moment très agréable en terminale où on les voyait naître à la philo. On les voyait, à un moment donné, se dire « ah mais oui, et c'est mieux ainsi ». C'est pas ce que j'imaginais, c'est pas ce que j'attendais. Mais au fond, ça répond mieux. Parce que les vraies réponses, elles sont indirectes.
Est-ce que vous leur avez donné votre passion pour Pascal ?
Celui que j'étudiais vraiment en terminale, c'était Platon. Tous les ans en terminale, je faisais une explication linéaire d'un texte de Platon. Pas le même. Au bout de 20 ans, je finissais par connaître un peu, je disais comme ça. Sauf que j'ai jamais eu le temps de lire toute la République.
Et parmi les phénoménologues, alors, comment est-ce qu'on en arrive à creuser ?
Alors, les phénoménologues, ça c'est autre chose. Je suis venu à la phénoménologie pour 3 raisons. La première, c'est que c'est vraiment la philosophie des commencements ou jamais. Le père de la phénoménologie, donc Husserl, c'est quelqu'un qui dit à la fin de sa vie, alors qu'il a toute son œuvre derrière lui, qu'il aimerait devenir un commençant. C'est pas une fausse humilité, c'est vraiment l'idée de reprendre les expériences premières pour chercher à les décrire et les comprendre. Et donc c'est de ce côté-là de la philosophie que j'ai trouvé le thème qui, moi, m'importait le plus. La deuxième raison pour laquelle je suis venu à la phénoménologie, c'est un professeur que j'ai eu en Cagne, 2 ans, qui est François Fédier. Je fais partie de cette génération qui était complètement fasciné par Heidegger, parce que d'un seul coup, on avait un fil directeur pour lire toute l'histoire, pour lire la philosophie depuis les présocratiques jusqu'à Nietzsche et après. Je fais partie de cette génération de gens qui se sont dit « Mais d'où vient Heidegger ? Quel était son maître, lui ? Qu'est-ce qu'il faisait avant d'écrire Être et Temps ? Pourquoi est-ce qu'il a été l'assistant de Husserl ?» Et en même temps, qui ont découvert que Husserl, c'était celui qui était le maître de Heidegger, mais aussi, d'une certaine manière, le maître des grands penseurs français du XXe siècle, c'est-à-dire Merleau-Ponty, Lévinas. Et donc découvrir que c'était un peu le penseur commun à tous ceux que je lisais et qui étaient nos contemporains. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je me suis intéressé à la phénoménologie. Et puis, la troisième raison, ça a été la thèse. Je fais une thèse sur toute autre chose. Je fais une thèse sur Kant. Je fais une thèse sur la troisième critique de Kant. Et j'ai eu l'impression que pour comprendre la troisième critique, j'avais besoin de la phénoménologie. Je fais une thèse sur l'affectivité chez Kant. Et la manière que j'avais de traiter ce texte kantien, ce texte critique, ce texte extrêmement classique, elle rejoignait des questions qui étaient celles de Husserl, de Heidegger. Et donc, après avoir travaillé Kant, j'ai passé des années à relire un corpus vraiment contemporain.
Vous êtes à Rome, Jérôme de Gramont, pour un sujet qui est le sujet de la parole.
L'expérience de la parole, c'est peut-être pour moi l'expérience majeure. L'essentiel de mon travail passe par des mots. Et donc j'essaie de comprendre comment ces mots que je prononce, ces mots que j'écris, rejoignent quelque chose qui est mon expérience. J'essaie de comprendre pourquoi il n'y a pas de grand écart entre ces deux expériences-là, celle de ce que je vis, et celle de ce que je dis. Et peut-être que aussi le travail de la phénoménologie, c'est ce travail-là, c'est ce travail pour décrire ce diamètre entre ce qui est vécu maintenant, le phénomène, ce qui se manifeste à moi. Ce qui se manifeste à moi, c'est ce que je reçois, ce que je vis d'un côté, le phénomène, et puis de l'autre, le logos, la parole, pour essayer de les faire se rejoindre. En fait, c'est cet arc-là que j'aimerais décrire.
Et quand vous dites cet arc-là que vous aimeriez décrire, est-ce que cet arc-là, c'est aussi un arc qui répond à des demandes, qui répond à des interrogations ?
Forcément, et forcément de manière indirecte. Quand on est philosophe, on est sollicité à droite et à gauche pour écrire un article, donner une conférence, participer à un colloque. Et puis, on arrive toujours à parler de ces choses qui nous tiennent à cœur. On répond toujours indirectement à des questions qui sont nôtres et qui sont très personnelles. Un philosophe, c'est quelqu'un qui parle de soi à la troisième personne. Je pense que c'est une manière très pudique de parler de soi, en disant « qu'est-ce que c'est que l'expérience de l'homme ? Qu'est-ce que c'est que le moi ?» C'est une belle pensée de Pascal, ça aussi. Qu'est-ce que le moi ? Et quand on dit « qu'est-ce que le moi ?», on parle de l'homme, on ne décrit pas son enfance. Je n'ai jamais l'impression de parler de mon enfance, de mon histoire personnelle. Et pourtant, c'est bien de ça que, de façon très indirecte, il est question.
Je crois aussi, Jérôme de Gramont, que vous êtes à l'intersection aussi de la philosophie et de la théologie.
Alors, j'essaie d'être à l'intersection, non pas de ces deux paroles, mais de ces trois paroles, que sont l'expérience littéraire, la parole de philosophe, et puis une parole de théologien. Le fait de travailler à l'Institut catholique est un privilège, parce que c'est l'endroit rêvé ou faire se dialoguer philosophie et théologie. Ce que j'essaie d'apporter, c'est cette troisième ligne qui est l'expérience littéraire et qui est pour moi fondamentale. Parce que les premiers livres qu'on lit ne sont pas des livres de philosophie, les premiers livres qu'on lit ne sont pas des livres de théologie. Les premiers livres, ce sont des romans. Et c'est aussi quelque chose de très formateur. Et donc, je vois bien comment, dans ma propre formation, ces trois cultures ont été importantes. Mon travail serait d'arriver à confronter ces trois paroles, pour montrer comment elles sont nécessaires toutes les trois et comment elles permettent en même temps un parcours pour aller vers une espèce de parole ultime qui est évidemment théologique.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
La question de l'affectivité est pour moi absolument essentielle. C'est la grande question phénoménologique. L'affectivité, c'est quoi ? Ce sont ces deux pôles que sont la souffrance et la joie. Eh bien, la souffrance et la joie ne sont pas sur le même plan. On ne vit pas la souffrance comme on vit la joie. Il y a peut-être dans la souffrance quelque chose de premier. Notre condition humaine, c'est peut-être d'abord une condition tragique. Mais notre vocation, elle est à la joie. L'homme est pris entre naissance et mort. Eh bien, la naissance et la mort, elles ne sont pas à penser à égalité. Peut-être que le premier thème, c'est la mort. Peut-être que la première conscience que j'ai, c'est la conscience d'être immortel. Mais peut-être que ce à quoi je suis vraiment voué, c'est à la naissance. Et c'est ça, la vie éternelle. Nous avons des raisons d'espérer que le dernier mot, ce sera celui-là.
Merci Jérôme de Gramont.